Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'intégration, une action cofinancée par le FEI, le Fonds européen d'intégration. En ce mois d'octobre, nous parlons du modèle social français avec une première émission qui traite de la médiation sous toutes ses formes. Plusieurs médiateurs de la rive droite sont venus témoigner de leur quotidien sur le terrain, de leur mission et de l'impact de leur présence auprès des populations. Vous entendrez Marie-Paul Paris de la Direction départementale de la cohésion sociale en charge des emplois aidés politiques villes. Badia Hassan de l'association Place au Jardin qui organise les jardins partagés de Senon et Florac. Kéziba Nildiz, agent de développement local pour l'intégration au CLAP Sud-Ouest. Victor Portela, coordinateur de Médianimation, structure de proximité à Lormont, qui fait de la médiation de nuit. Tariq Saïbedi, médiateur social pour la mairie de Bassens, accompagné de Stéphanie Montriou, chef de projet politique de la ville. Très bonne écoute sur O2 Radio. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur O2 Radio 91.3 pour la question d'actualité du jeudi soir, question de médiation. À partir d'aujourd'hui, on se retrouvera tous les premiers jeudis de chaque mois de 19h à 20h pour parler de médiation. Cette émission est l'occasion de faire remonter des problématiques quotidiennes des habitants, comme le logement, la santé, la mobilité, l'éducation ou l'accès aux droits. C'est aussi l'occasion de créer la rencontre entre habitants et les institutions concernées dans le but de faire avancer le dialogue et peut-être d'une amélioration de la situation. Pour cette première émission, nous parlerons de la médiation et notamment de la médiation dans les quartiers exercée par les adultes relais. J'ai souhaité donner la parole à ceux qui sont au quotidien sur le terrain et qui sont au plus près de la population. Mais quelle est la volonté de l'État à travers ce dispositif adulte relais? Qui sont ces médiateurs et quelle forme de médiation font-ils au quotidien? Pour nous répondre, on reçoit en plateau avec nous Marie-Paul Paris de la Direction départementale de la cohésion sociale, Mission Ville, en charge des emplois aide politique ville. Marie-Paul Paris, bonjour.
Bonjour.
Avec nous aussi sur le plateau, ces médiateurs qui sont sur le terrain au quotidien, qui sont la plupart dans un dispositif adulte relais. Badia Hassan de l'association Place au Jardin qui organise les jardins partagés de Senon et Florac. Bonjour.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Kéziba Nildiz, médiatrice sociale pour l'intégration au CLAP Sud-Ouest.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Géraldine Baudot, correspondante de nuit à Média Animation.
Bonsoir.
Victor Portela, coordinateur des correspondants de nuit, toujours à Média Animation, dans la ville de Lormont.
Bonsoir.
Bonsoir. Tariq Saïbeti, médiateur social pour la mairie de Bassens.
Bonsoir.
Et Stéphanie Montriou, chef de projet au service politique contractuel. Bonsoir.
Bonsoir.
Mais concrètement, qu'est-ce que la médiation? Alors communément, on la définit comme une intervention d'un tiers pour faciliter la circulation d'informations, clarifier ou rétablir des relations. Ce tiers neutre, indépendant et impartial est appelé médiateur. Alors est-ce que c'est une définition qui vous correspond? Victor Portela?
Oui, surtout on n'est pas des arbitres et on n'est pas des conciliateurs. Hein. On est là sur le terrain pour faciliter le dialogue entre deux parties. Et il faut bien ces deux parties. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des fois dans lesquelles on est appelé et les parties restent un peu en retrait. Et on doit gérer en urgence une situation et on se retrouve avec une seule partie. Là, c'est différent. Il y a la médiation à chaud, la médiation qui peut être programmée. Et il y a tellement une infinité des médiations et des définitions que chaque service et chaque équipe, il peut porter un peu ça.
Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir sur cette définition de la médiation ou est-ce que vous avez une votre propre définition de la médiation?
Moi, je voudrais revenir au départ sur le concept de politique de la ville. Pourquoi
alors,
il y a eu
Paris,
la politique de la ville, en fait. L'enjeu, donc, c'était vraiment réduire les inégalités territoriales et agir pour les quartiers en difficulté. Ça date à peu près des années 70, quand il y a eu la flambée des prix du gaz, etc. À l'époque, il y avait 5 millions de personnes qui étaient en quartier politique de la ville. Maintenant, il y a 8 millions de personnes en quartier politique de la ville et 2500 quartiers concernés. Voilà. Donc d'où ensuite l'émergence des femmes relais dans les années 70. Et c'est ça en fait ensuite qui a donné lieu finalement au dispositif adulte relais dans les quartiers.
Alors, qu'est-ce que c'était ces femmes relais?
C'était des femmes bénévoles, le plus souvent issues de l'immigration. Donc elles avaient des contacts avec les habitants et elles rétablissaient le lien social.
Donc c'est parti d'une volonté en fait de femmes suite à des problématiques dans les quartiers?
C'est ça, voilà, c'est parti de ces femmes relais. Il y a eu aussi à l'époque les grands frères également, qui étaient aussi des bénévoles dans les quartiers.
et qui faisait de la médiation. Donc la médiation dans les quartiers, ça commence par là.
C'est ça. Et ensuite, ça a été institutionnalisé par l'État, par une circulaire de 2000 sur les adultes relais.
Alors, est-ce que vous pouvez présenter à peu près ce dispositif adulte relais, Madame Paris ?
Donc, ce dispositif date des années 2000. À l'époque, 10 000 emplois étaient prévus. En 2005, il y a eu des émeutes dans les banlieues. Donc, le dispositif a été relancé. On a demandé effectivement à ce qu'il y ait plus de postes. Et l'État a voulu mettre l'accent sur la formation des adultes relais, puisque c'était vraiment quelque chose d'essentiel. Actuellement, il y a 4200 postes au niveau national et nous avons 51 conventions en Gironde, dont 16 sur les Hauts-de-Garonne.
Oui, parce qu'aujourd'hui, nous recevons prioritairement des médiateurs adultes relais de la rive droite, ce que je n'ai pas précisé. Donc, il y en a à peu près 16 sur la rive droite.
C'est ça.
Alors, quels sont les enjeux de la médiation dans les zones prioritaires ? Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà pour nos auditeurs ce qu'est une zone urbaine sensible ou une zone prioritaire ?
Alors, sur donc Bordeaux, il y a les contrats urbains de cohésion sociale.
Les CUX.
Les CUX. Oui. Et donc, nous avons 35 quartiers prioritaires, donc 13 quartiers en CUX 1, avec des définitions un petit peu particulières, 13 quartiers en CUX 2 et 9 quartiers en CUX 3. Et donc, 13 quartiers qui sont classés en ZUS, voilà, donc sont les ZUS, donc les zones, effectivement, urbaines sensibles.
Voilà, donc comment elles sont classées, ces zones urbaines sensibles ? C'est par rapport à un taux de chômage ?
C'est ça, c'est un taux de chômage. Oui. Donc actuellement, les US, enfin tout ce qui est politique de la ville est en pleine révolution, je dirais. Il va y avoir une loi, il y a un projet de loi qui va être débattu au Parlement. Et il y aura, alors on ne sait pas encore si c'est en fin 2013 ou en début 2014, il y aura, donc les US n'existeront plus. Il y aura à nouveau donc des quartiers prioritaires, mais qui ne seront plus sur les mêmes zones.
Et qui n'auront plus la même classification, c'est ça ?
Voilà, ça ne sera plus du tout la même classification. Bon, donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, parce que
on connaît pas
nous attendons le débat parlementaire. Voilà, ça sera... Alors, le critère, effectivement, ça sera sur les revenus médians.
D'accord. Alors, quelle est la volonté de l'État à travers ce dispositif adulte relais ?
La volonté de l'État, donc, c'est de rétablir le lien social, essentiellement.
Oui.
Contribuer au mieux vivre ensemble, favoriser la communication au sein de la société, conforter le lien social et participer à la prévention aussi et à la gestion de la violence. Donc en se basant sur des adultes relais qui sont sur le terrain, qui font ensuite émerger les questions et qui ont un lien très fort avec tous les partenaires, alors que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les associations, que ce soit les MDSI, les Pôle emploi, la CAF, la police aussi.
Alors il y a plusieurs adultes relais, dans plusieurs fonctions, ils ont le même objectif mais pas forcément le même outil de médiation. C'est un choix ça de l'État ?
Alors en fait, au niveau de la procédure, donc de l'attribution de la convention, on examine donc l'État examine le projet et il y a une typologie de métiers. Donc il y a donc plusieurs métiers de médiateurs sociaux. Il y a le médiateur social et culturel, le médiateur social dans l'espace public, le médiateur social dans les transports, le médiateur social dans le logement social, le correspondant de nuit comme à Média Animation, les correspondants de quartier, l'agent médiateur aussi dans les PIMS, les points d'information au service public, le médiateur scolaire, donc aussi c'est un poste très très important pour éviter le décrochage scolaire, le médiateur aussi dans le domaine de la santé. Donc c'est vrai qu'en Gironde, nous avons tous ces types de métiers représentés. Nous avons 9 correspondants de nuit et correspondants de quartier.
Qui sont adultes relais.
Nous avons 4 adultes relais qui s'occupent d'accompagnement scolaire, de relations avec l'école, donc qui luttent contre l'échec scolaire. Nous avons 4 adultes relais qui sont plus sur la médiation interprétariat. Nous avons 17 adultes relais qui sont dans l'accompagnement de proximité, le lien social. 2 adultes relais qui sont plus dans le domaine du sport. Ensuite, 3 qui sont plus dans le domaine de la jeunesse. 4 qui sont dans le domaine de la culture et des médias. Et 9 qui sont sur l'accès aux droits.
Donc ça, c'est l'État qui a choisi au départ.
Voilà, chaque département a une dotation d'adultes relais. Donc nous, en Gironde, nous en avions 52. Actuellement, nous en avons 51. Et effectivement, en fonction du projet, on attribue ou pas la convention.
D'accord. Alors vous l'avez dit, mais on va revenir. Quelles sont les principales missions de ces adultes relais ? Quel est leur référentiel emploi, leur point commun qu'ils ont entre eux ?
Leur point commun, c'est renforcer la présence humaine, assurer une fonction d'interface entre les populations et les institutions, apaiser les tensions, parce que c'est très très important, décoder les cultures, puisqu'il y a beaucoup d'adultes relais qui sont dans le domaine aussi, enfin qui travaillent avec des populations issues de l'immigration, et mettre en confiance. Donc, pour moi, ce sont effectivement les principales missions. Après, effectivement, c'est tout ce qui est accès aux droits, amener vers les institutions, décoder tout ce qui est en matière de santé. C'est pas évident, effectivement, pour des populations issues de l'immigration, d'aller vers les hôpitaux, etc. On a besoin aussi des interprètes. Voilà, donc ça fait partie des missions essentielles. Tout ce qui est effectivement aussi lutte contre la... Enfin, apaisement des tensions dans la ville, la tranquillité publique aussi.
Je me retourne vers les médiateurs de quartier. Est-ce que vous vous retrouvez à travers ces missions qu'a décrites Marie-Paul Paris ?
Moi, je m'y retrouve complètement. Donc, moi, je suis Kézi Banildiz, je suis médiatrice interculturelle au CLAP à Lormont, auprès de la communauté turcophone de la rive droite. Mmh. Alors, je dis turcophone parce que jusqu'à maintenant, le CLAP ne privilégie pas, mais s'occupait beaucoup plus des familles turques. Et on a bien vu qu'il y avait une nouvelle immigration, notamment l'immigration des Bulgares turcophones. Donc, maintenant, nous nous occupons aussi de ces familles-là. Donc par le biais de l'interprétariat, j'essaye d'instaurer ou de restaurer des ponts, des traits d'union entre ces institutions françaises et la communauté turcophone. Donc on fait le lien entre le côté francophone et le côté turcophone. Voilà. Quand je dis le lien, c'est tout ce qui est administratif, logement, santé, école, accès aux droits, un peu tout. Une personne peut venir me voir en me disant « eh bien, je ne sais pas comment faire pour inscrire ma petite fille à l'école ». Donc on l'oriente vers l'espace citoyen ou « je ne sais pas comment faire pour l'inscrire, je ne sais pas moi, à la cantine ». Oui, voilà, j'ai reçu un courrier, je ne sais même pas ce que ça veut dire, il faut y répondre sous 8 jours, mais je ne sais pas comment faire.
Voilà. Oui, donc vous faites bien le lien et le pont entre les institutions et les habitants, ça correspond bien au descriptif du poste d'adulte relais. Je reviens vers vous, Marie-Paul Paris, avant de présenter tous les adultes relais présents et leur structure. Et je voulais vous demander pourquoi ces prérequis sur ces postes d'adulte relais. Alors notamment, on sait que pour être adulte relais, il faut avoir plus de 30 ans. Alors pourquoi, déjà la première question, et aussi il faut habiter en zone urbaine sensible. Alors est-ce que c'est ce critère de zone urbaine sensible, c'est pour réduire un taux de chômage qu'on sait très bien plus important dans ces quartiers-là, ou est-ce que c'est plutôt pour faire de la médiation entre pairs, enfin, donc voilà.
Voilà, d'abord je vais répondre sur le critère de l'âge. Donc il faut effectivement, l'avantage c'est de permettre aux adultes relais de mieux faire face à certaines situations vis-à-vis des jeunes notamment, donc c'est pour ça qu'on demande d'avoir plus de 30 ans. Et pour gagner en crédibilité justement par rapport à ces jeunes. Ensuite, l'objectif du dispositif, c'est aussi pour aider donc des jeunes qui étaient au chômage dans les quartiers prioritaires. Donc c'est pour ça qu'on demande que ce soit des personnes qui habitent en quartier ou en ZUS ou en CUX. Et en plus, le fait d'habiter en quartier prioritaire donne une meilleure connaissance du terrain. Après, on s'est aperçu que il fallait pas forcément que l'adulte relais habite sur le secteur sur lequel il travaille, parce que du coup, il est interpellé sans arrêt, que ce soit la nuit, le week-end, etc. Mais, oui. Enfin bon, la condition effectivement, c'est quand même que la personne habite en quartier prioritaire.
Oui, et puis il y avait eu un bilan un peu mitigé sur la période des grands frères. Il y avait c'était oui. Compliqué aussi. D'accord. Donc c'est pour ça cette question. Hein. C'était vraiment c'était une question de chômage pour aider les gens en zone urbaine sensible à trouver un emploi. Ou si c'était vraiment une forme de médiation par les pairs. Alors je me retourne vers les médiateurs. Est-ce qu'on peut faire un tour de table pour chacun présenter ses missions et sa structure aussi ? Donc on va commencer par Tariq.
Oui, donc je suis à la mairie de Bassens, médiateur de proximité. Donc comme le dit ma fonction, je fais un travail la majorité du temps avec un travail de proximité sur toute la commune.
Oui, pour nos auditeurs, c'est quoi un travail de proximité ?
C'est être proche de la population, des administrés, pour pouvoir soit désamorcer des conflits, soit informer, orienter les habitants vers les institutions. Voilà. Donc, je travaille sur toute la commune, comme on a parlé tout à l'heure de zones prioritaires. Donc moi je fais la commune comme les différents quartiers que ce soit la commune qui sont en CUX.
Ah oui, alors combien il y a de quartiers en CUX
Il y en a trois. On a trois quartiers à Bassens, voilà. Mais je tourne régulièrement sur toute la commune.
Merci Tariq. Ouais. Victor Portela et peut-être Géraldine de Média Animation.
Oui, donc Géraldine de Média Animation. Donc je suis salariée d'une association en tant que correspondante de nuit. Donc l'objectif du poste est aussi de créer un lien avec la population. Après, nous, on tourne en soirée et en début de nuit. Donc, le lien principal, c'est un lien entre le jour et la nuit, puisque les administrations ferment quand le service commence. Donc, on prend surtout la suite. Après, on intervient aussi sur toute la ville, sur tous les quartiers. Donc, on intervient à la demande de la population, à la demande de la mairie.
Alors, on précise, c'est à Lormont, hein, Média Animation.
Oui,
hein, vous intervenez
oui,
sur la ville de Lormont.
Uniquement sur la commune de Lormont. Voilà. Ouais, 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 sur l'intégralité de la commune.
Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur le projet de Média Animation au départ? Ça fait combien de temps que ça existe C'est une association, c'est ça, hein, Victor?
Oui, et avant ça, je voudrais revenir un peu sur le dispositif Adulte Relais, parce que c'est ce qui ça m'a touché un peu quand tu as parlé, tu as dit voilà, les grands frères. Les grands frères, c'est rien à voir avec ces dispositifs qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un dispositif qui est beaucoup plus cerné sur les personnes qui rentrent dans ces dispositifs. Ils vont aller pérenniser l'emploi, ils vont être formés, et il y a un suivi de ces personnes. Il y a quelque chose, et c'est un dispositif dans lequel aide énormément la population. Et c'est pas du tout un dispositif pour acheter la paix sociale.
Alors, c'est pas ce que je voulais dire, Victor Portela. Quand je revenais en fait sur les grands frères, c'était plus de la médiation par les pères en fait. Et c'était justement cette question-là, quelle volonté de l'État en prenant des personnes, des adultes relais issus de zones urbaines sensibles.
Mais j'étais là à le dire, parce que souvent on va penser que ces médiateurs d'aujourd'hui, et on les met en place tout simplement pour acheter la paix sociale, et c'est pas du tout ça. Il y a tout un travail qui était fait en amont, tout un travail qui l'est fait pendant, et tout un travail dans lequel on travaille directement pour essayer de voir quelle sortie on va donner à ces personnes à la fin des dispositifs. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement, il y a une formation, et il y a des gens autour, des associations autour, qui travaillent, mais très sérieusement. Je suis depuis 1982 dans le social, en tant qu'éducateur spécialisé. J'ai quitté justement le social en 90 parce que j'étais un peu déçu de la façon qu'on est mené quand j'étais éducateur spécialisé des rues, ces dispositifs des grands frères. Et puis aujourd'hui, je vois que ça a complètement changé.
Alors, on va continuer sur cette intervention. Donc, je vois qu'il y a Stéphanie Montriou qui veut intervenir sur ce sujet, puis ensuite Marie-Paul Paris.
Oui, pour aller dans le sens de ce qui se dit, c'est vrai que l'adulte relais, sa création, la création de ce dispositif, c'est le reflet et une réponse à un contexte particulier dans les années 80-90. Depuis, je rejoins le collègue Victor, ça a beaucoup évolué et l'idée, voire même l'enjeu de ces postes-là, c'est effectivement de mieux cerner les missions et de s'appuyer sur des qualités humaines et relationnelles des personnes qui occupent ces postes-là. Comme dans beaucoup de métiers du social, on demande à ce que les personnes aient effectivement un sens du relationnel et le contact plutôt facile, sinon c'est compliqué. Ceci étant, on tend et on s'attache de plus en plus à professionnaliser ces compétences et c'est ce qui est très important et c'est ce qui fait que ça, à mon avis, c'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui, parce qu'on professionnalise, on fonctionne souvent en réseau, on est sur des groupes qui permettent d'échanger sur les pratiques, on a des bilans réguliers aussi sur les expériences menées, y compris à l'échelle du territoire. Et je crois que ça, c'est très important, parce que c'était des tiers qui pouvaient aussi être parfois interpellés pour assurer des fonctions très très variées. Et aujourd'hui, on sent bien que les personnes et les structures qui emploient ces adultes relais s'attache vraiment à cerner les missions, à poser des objectifs clairs, et c'est des métiers à part entière aujourd'hui, il me semble.
Mais je n'en doute pas. Alors Marie-Paul Paris.
Oui, donc je reviens sur ce que disait Monsieur Portela. Je parlais effectivement des grands frères, mais c'était à l'époque des années 70. C'est plus du tout la même chose maintenant. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances s'attache maintenant justement à beaucoup former les adultes relais pour qu'ils aient ensuite ce qu'on appelle des sorties positives. Et il y a un plan de formation qui est demandé dès le départ de la convention. Donc on demande à la fois un projet axé sur les habitants des quartiers prioritaires, et on demande également à l'employeur de s'engager sur un accompagnement professionnel et des formations. Et le plus souvent, on demande aussi à ce que ce soit des formations qualifiantes pour permettre à l'adulte relais de trouver du travail à la sortie, puisque ce sont des conventions qui ne sont pas... qui ne sont pas durables, puisqu'elles sont en principe d'une durée avec un renouvellement de deux fois trois ans, donc ça c'est 9 ans maximum. Et en ce moment, donc, l'agence, donc l'Accès, a lancé un plan avec un marché depuis 2009 avec le Club du Sud-Ouest, avec des formations avec un tronc commun à la médiation et ensuite des formations spécifiques. Et il y a également des bilans individuels avec les adultes relais pour qu'ils entament des formations qualifiantes. Également en Gironde, on travaille en ce moment sur une formation qualifiante à proposer aux adultes relais, une formation qualifiante vers l'animation avec une option forte sur la médiation sociale.
Merci Marie-Paul Paris. Oui, c'est un nouveau métier, donc c'est justement l'intérêt de présenter ce métier-là à la radio. C'est vraiment expliquer qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les qualités et ce que ça apporte au quotidien. Donc les enjeux de la médiation, hein, on en est bien là. Est-ce que Victor Portelan peut continuer à présenter peut-être Média Animation ?
Oui, je vais revenir en arrière. La ville de Lormont, actuellement, si je ne me trompe pas, nous avons 7 adultes relais. Dans les centres de la politique de la ville, il en existe 3. Il y a un observateur de quartier, il y a un animateur de kiosque et un autre animateur de kiosque à la ramade. Et ça, c'est une partie. La deuxième partie que je coordonne, c'est les correspondants de nuit. Les correspondants de nuit, c'est une longue histoire déjà, parce que ça fait 15 ans qu'ils ont été créés sur la ville de Lormont. Qu'est-ce que c'est un correspondant de nuit ? C'est un médiateur avant tout. C'est un généraliste de tout, un spécialiste de rien. Quand on dit ça, c'est vrai parce qu'on est appelé pour des situations très difficiles, ou des fois tout simplement on est appelé pour quelque chose à niveau de la tranquillité publique. Hein, j'ai dit bien la tranquillité publique et pas la sécurité publique, parce que c'est deux volets complètement différents. C'est un sentiment d'insécurité. Avoir du monde dans la rue à partir de 16h pour la sortie des collèges, et en été nous sommes sur le terrain jusqu'à 2h du matin, ça donne un sentiment d'insécurité pour certaines personnes. Ils sont beaucoup plus tranquilles, la personne qui promène son chien, la personne qui nous appelle parce qu'il y a des bruits en bas de chez eux, que c'est pas nécessaire que ça déplace les forces de police pour ça. On essaye quand même d'être pressant et de circuler, et c'est toute la ville de Lormont que nous couvrons, la totalité, 22 500 habitants. On a une équipe de 4 personnes, on a Géraldine qui est à mon côté, qui est référente d'équipe, et pour le général c'est une mission qui n'est pas facile à tenir, parce que des fois on ça donne l'impression qu'on a fait la soirée, que ça n'a rien passé. Mais que ça n'a rien passé, tout simplement, il y a des habitants qui nous ont vus, des habitants qui nous ont adressé la parole, qui nous ont un petit bonjour, et puis des autres jours dans lesquels on est vraiment, on a plein d'animations sportives et culturelles dans lesquelles nous sommes présents. On a des gens qui viennent nous raconter les soucis pour les enfants, les soucis pour trouver des travails. On essaye de relier le mieux possible ces gens-là vers une information, quelqu'un qui peut donner une information beaucoup plus précise et un service qui pourra traiter cette situation la journée. Et il y a tout un travail à faire entre le jour et la nuit. Je pense que les correspondants de nuit, ils sont une place très importante. Et c'est pour ça que ça n'existe pas simplement en France, à Lormont. En France, il y a 47 villes actuellement qui sont des équipes de correspondants de nuit. Lormont, c'est la plus petite équipe de France. À Paris, ils sont 180 correspondants de nuit. À Orléans, ils sont 90 correspondants de nuit. Mais nous, avec nos 4 adultes relais correspondants de nuit, médiateurs, on s'en sort très bien, je pense.
Est-ce que vous pouvez rappeler les créneaux sur lesquels vous intervenez, du coup ?
Il y a 2 fois par semaine, nous commençons à 16h pour être justement présent à la sortie des écoles et des collèges, hein, pendant la période scolaire. Le reste du temps, nous commençons à 17h. Quand on commence à 16h, on finit notre service à 23h. Et les jours qu'on commence à 17h, à minuit. En été, le vendredi et le samedi, dans lesquels il y a des animations sportives, des concerts, des autres types, des gens, ils sont dehors beaucoup plus tardivement, nous changeons nos horaires pour aller de 19h à 2h du matin. Ça veut dire qu'on est dans cette partie, en sachant que tout ce que c'est médiation, je suis convaincu de ça, et ça s'engage que moi. Jusqu'à une certaine heure, on peut faire la médiation. À partir d'une certaine heure très tardive, il y a malheureusement des rassemblements, des gens qui se sont alcoolisés, dans lesquels nous, ce n'est pas du tout notre mission des médiateurs, et c'est des médiations des sécurités publiques. C'est pour ça qu'on n'y va pas au-delà de minuit, et on n'y va pas au-delà de 2h du matin en été.
Merci Marie-Paul Paris, vous voulez intervenir ?
Oui, donc j'ajouterai sur ce sujet que justement la position des adultes relais est très délicate, parce qu'ils ne sont pas des travailleurs sociaux, et donc des fois ils sont mal vus, des travailleurs, enfin de certains travailleurs sociaux. Ils ne sont pas effectivement non plus, ils ne remplacent ni les vigiles, ni les policiers. Donc effectivement, quand il y a des situations délicates, ils doivent en référer aux forces de l'ordre. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'insiste sur leur rôle qui est vraiment difficile.
Oui, alors on va reparler des difficultés du métier de médiateur. Est-ce qu'on peut continuer avec Badia Hassan qui nous présente donc son association, donc Place au Jardin?
Alors, je suis Badia, l'animatrice du jardin partagé de l'association Place au Jardin, donc sur le jardin Les Mille et Une Feuilles, à ce nom. Donc, l'objectif de mon poste, de se servir de ce jardin d'un lieu de détente, d'accueillir tous les Sénonais et de les permettre de vivre ensemble avec leurs difficultés, avec leurs différentes cultures. Donc, comme je suis avec Intermed Gironde, interprète interculturel, ça m'aide aussi un décodage culturel entre certains groupes, parce que je reçois pas mal de mixité sociale et autres.
Est-ce qu'on peut rappeler quelle langue vous parlez ?
Je parle le kurde et l'arabe.
D'accord.
Aussi, oui. Voilà. Voilà, quand il y a du monde dans ce jardin, donc mon but de faire en sorte que tout le monde s'entende bien, c'est pas forcément quand on parle d'un jardin, on croit que dans ce jardin on fait que du jardinage. En fait, il y a
c'est un outil de médiation.
C'est un outil de médiation à part entière. Ça aide à la personne qui osait même pas parler quelques mots en français. Ça encourageait cette personne-là d'aller vers les autres. Donc, j'ai utilisé des outils de mettre des permanences, c'est-à-dire d'un arrosage type une française, une turque. Donc, pour ça aide à communiquer, etc. Et arriver avec leurs enfants et partager un goûter sur place. Donc, ça crée des relations entre les habitants eux-mêmes et entre d'autres partenaires que nous, Place au Jardin, on travaille avec eux aussi.
Et auprès de quel public, comment ça se passe? Comment ils viennent vers vous, ces personnes qui veulent faire du jardinage?
Elle disait...
Stéphanie Montriou.
Stéphanie, comme je suis facile à m'approcher des gens, facilité de vivre. Donc,
vous pouvez confirmer aussi.
C'est mon rôle
aussi.
Je suis devenue l'abeille de ce nom.
Ah, c'est joli.
Donc, je suis... Je bouge pas mal sur le quartier et je maintiens deux permanences sur le jardin, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Dans ces ateliers, il y a les ateliers avec les enfants aussi. Donc, on fait de petits ateliers d'animation avec les enfants, donc ils sont ravis.
Que les gens viennent naturellement vers ce projet, hein.
Il y a de tout. Il y a des gens qui vont promener leurs chiens, ils vont s'arrêter, ils vont poser quelques questions. Je les invite à visiter le jardin et un petit échange, il devient quelqu'un qui va adopter le jardin carrément, il va venir régulièrement. Il y en a qui vont apporter quelques épluchures pour notre composteur. Il y a d'autres qui vont venir passer du temps pour juste boire un thé avec nous. Il y a d'autres qui se donnent des rendez-vous autour de la table du jardinage ou des auberges espagnoles. Du coup, c'est un lieu qui est bien animé, qu'il y a du monde.
Oui, puis on peut revenir sur le concept du jardin partagé, qui n'est pas toujours pareil dans tous les jardins partagés, mais là, il y a un endroit où on peut faire son carré, c'est ça, hein, ce qu'on a expliqué
alors,
la semaine dernière.
Le jardin est formé sur trois espaces. L'espace de parcelles individuelles, donc chacun il a son petit carré qui n'est pas très grand. Il peut faire pousser tout ce qu'il a envie de mettre dans son carré. Il y a l'espace collectif qui est partagé, tout ce qui pousse dans cet endroit est partagé. Et il y a l'espace dédié aux enfants et aux partenaires. On travaille également avec la GYMS, avec les enfants autistes, les tournesols, avec l'épicerie solidaire, qui ont leur carré à leur propre carré, qui vient cultiver récemment depuis le mois de juillet. Oui. Et on espère que ça continue. Récemment, on travaille avec une autre association. On a reçu une personne malvoyante. Donc, c'est tout un autre concept d'apprentissage. Même pour moi, c'est un monde à découvrir. Quel type de couleurs il peut y avoir? Quels sont les obstacles dans ce jardin peuvent poser problème? Malgré ça, on s'adapte. Donc, lui, il a fait le tour de tous les jardins de Bordeaux. Il n'a pas été accepté. Nous sommes...
Ah oui, il a été refusé parce qu'il était malvoyant dans les autres jardins.
Oui.
Parce que j'ai vu la semaine dernière, qui est pour les personnes handicapées à mobilité réduite, oui. vous avez créé aussi
des
bacs spécifiques.
Oui.
Et qui coûte très cher.
Mais je me suis mis à disponibilité aussi sur mes permanences pendant une heure. Je crée un temps spécial à ces personnes-là, par exemple.
Oui.
De les accompagner, de les faire découvrir, toucher, odorat, etc. Donc ça m'aide aussi, c'est un monde différent. Quand on se met à la place de la personne, c'est tellement...
Oui, puis j'imagine que pour eux, c'est très important. Si c'est une première fois qu'on peut permettre de jardiner, d'avoir une nouvelle expérience.
Lui, il travaille, ce personne, il travaille déjà. Côté...
Donc dans la médiation, on peut faire de l'intégration et de l'insertion. C'est
oui,
aussi peut-être...
tout à fait. Ça, je peux le dire que...
Oui. Ah, vous pouvez réagir, Marie-Paul Paris, vous vouliez réagir à ça.
Il me semblait que vous aviez aussi travaillé avec un club de prévention.
Tout à fait.
Voilà. Et également, vous aviez aussi travaillé pour pousser donc, des femmes donc, turcophones à apprendre la langue française.
Tout à fait, tout à fait. Donc, quand on dit, nous avons fait des chantiers éducatifs, on travaille beaucoup avec la JAG. Donc, ce sont les éducateurs de la rue, avec des jeunes en difficulté. Je pense que c'est de 11 à 17 ans ou quelque chose comme ça. Et on prévoit sur certains chantiers ou des chantiers éducatifs, création des bacs surlevés pour les personnes en fauteuil roulant. C'est eux qui ont creusé la mare. Voilà. Et pour revenir à votre. Par rapport aux personnes qui veulent apprendre, vraiment, c'était un outil en fait. Ils arrivent, moi je les encourage. Je dis, il va commencer par les Turcs. Elle va commencer par les Arabes, etc. Et le message, il n'est pas passé tout à fait. Je lui encourage de parler en français et même d'apprendre le nom des outils, etc. Et c'est là, la personne, elle a trouvé le courage. Elle s'était allée inscrire à Insermedia pour apprendre. Et elle continue d'ailleurs. Et elle prend la parole maintenant pendant nos réunions de concertation. C'est incroyable. On est ravis de ces résultats, en fait.
Oui, d'accord, donc c'est vraiment...
Elle n'osait pas parler et maintenant c'est elle qui prend la parole.
Mettre en valeur les personnes qui interviennent.
Elle se présente.
Donc il y a plein de choses qui rentrent, la confiance, redonner confiance aux gens aussi, c'est important dans la médiation, je pense.
Pardon, juste revenant sur le sujet, la mixité, il y avait des personnes sur ce nom qui étaient renfermées chez eux, qui ne sortaient pas. Grâce à ce jardin, ils ont trouvé un lieu... respirer, de prendre de l'air et de voir d'autres gens. Donc, c'est devenu un outil, je dirais, de... Comment on dit ça ?
De
sociabilisation, de prendre une vie normale, je dirais.
Oui. Alors, Kéziban, on va peut-être parler de vos fonctions avec la population turque, la communauté turque. Alors, comment ça se passe, votre fonction de médiation ?
Donc, Badia est la rose de ce nom.
L'abeille, la rose.
L'abeille, la rose. Et moi, malheureusement, je suis l'épine de leur voix.
Non.
Enfin, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, j'officie surtout pour la communauté turcophone et quand on vient nous voir, malheureusement, c'est pas pour nous dire je suis heureuse ou je vais très bien. C'est en général pour nous dire j'ai des dettes, je n'ai pas de logement, je sais pas comment. Enfin, je voudrais apprendre le français, mais je sais pas déjà écrire dans ma propre langue. Donc, comment je. Enfin, c'est pour ce genre de questions. Et donc, c'est lourd au quotidien. Donc, il faut évidemment assumer. Donc, moi, j'officie sur deux volets, le volet individuel et le volet collectif. Sur le volet individuel, j'accueille, je conseille et j'oriente les gens. C'est très important de dire que...
Comment ils viennent vers vous, déjà, au départ ? Comment là, vous êtes connu, vous êtes reconnu ?
Alors, le CLAP est vraiment repéré à Lormont. Ils savent très bien où se trouve le CLAP. Et en général, quand ils vont dans les centres sociaux les orientent facilement vers le CLAP, déjà, d'une. Et puis... Évidemment, comme on fait aussi partie de cette communauté-là, ils savent, le téléphone arabe marche très bien, ils savent très bien qui travaille où, en fait.
D'accord.
Donc, on n'a pas besoin de faire la publicité de où on travaille. Voilà. Les gens viennent facilement nous voir. C'est très important de dire qu'on ne fait pas on ne fait pas les choses à la place des gens, ni à la place des usagers, ni à la place des professionnels du terrain. C'est très important. On essaye, de les inciter à faire. Après, c'est très difficile. C'est difficile parce qu'ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire et tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais on ne fait pas à la place ni des turcophones, ni à la place des professionnels. Le second volet, donc, c'est le volet collectif. Le volet collectif, c'est vraiment pour favoriser le vivre ensemble, la participation des habitants et de tous les habitants, ainsi que des turcophones, évidemment. Dans les centres sociaux notamment, bien sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets, mais en général, ces projets-là ne sont pas accessibles ou très peu accessibles. Pourquoi ? Parce que, justement, la barrière de la langue. Donc, on essaye de prendre sur notre temps et de participer à ces projets-là pour ramener, justement, des femmes, des hommes à ces projets-là, pour qu'ils prennent aussi une voix dans ces projets-là.
Alors justement, je vais passer à un autre point que je voulais voir avec vous. Est-ce que vous avez des... Alors, on a bien compris, Badia Hassan, un outil de médiation, c'est le jardin, mais les autres médiateurs, est-ce que vous utilisez des outils de médiation ? Donc Tariq Abassins, j'imagine qu'il y a plusieurs projets sur lesquels on s'appuie, des outils comme qui peuvent être, donc on sait que vous êtes boxeur par exemple, est-ce que la boxe est un outil de médiation ? Est-ce que c'est un outil que vous utilisez ou vous en avez d'autres ?
Non, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en avant comme outil. C'est vrai que le sport, moi je suis professionnel de boxe, donc c'est important d'amener aussi, d'approcher certains jeunes et de les amener par le biais du sport. Donc on fait des accompagnements au niveau d'ateliers sportifs. Mais ça peut être aussi des chantiers éducatifs où on va repérer certains jeunes et on va les inscrire sur des types de chantiers. Ça peut être des ateliers, on a des ateliers de rap pour les jeunes, d'expression où les jeunes vont venir et on accompagne ces types de projets-là. Mais voilà, après moi dans mon cadre... on travaille vraiment, on fait un peu de tout, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, du conflit de voisinage, mais ça peut être aussi d'un accompagnement au niveau des jeunes à la sortie du collège, une présence, on peut être là, on peut faire de la veille technique pour tout ce qui peut être problème au niveau des habitants sur des problèmes d'urbanisation, des petits des dégradations, des choses qu'on va remonter vraiment...
Oui, vous avez un rôle très large.
Oui, oui, on peut faire aussi des passages, des transports en commun, où il y a une présence aussi qui est là pour aussi rassurer les personnes et éviter tout type de petits conflits.
Alors, est-ce que la population vous a ciblé, vous reconnaît
Oui, dans mon cas, c'est facile parce que d'abord, on a un véhicule de fonction avec un logo mairie et je suis identifiable, j'ai un t-shirt qui explique mes fonctions, médiateur. Et bon, Bassin, c'est une commune avec 7000 habitants. Quand je tourne sur toute la commune, voilà, je suis vite repéré, on va dire.
Et donc, les gens viennent d'eux-mêmes quand ils ont un souci
Oui, donc évidemment, soit ils se rapprochent de la mairie, soit ils viennent, on a des permanences dans un des quartiers à Prévert, le mardi après-midi. Donc, ils peuvent venir... me solliciter, ben voilà, on a aussi le portable que je communiquerai en fin d'émission. Ah, non, c'est facile, je suis facile avec ce travail de proximité, je suis très proche et régulièrement je suis sur toute la commune, je me fais interpeller par les plus jeunes, moins jeunes, toute la population.
Alors je me tourne vers Média Animation, est-ce que vous des fois vous utilisez des outils de médiation ? Est-ce que vous proposez des activités qui peuvent vous aider avec le lien avec les personnes ?
Des activités, non. Non. On n'a pas d'activité. Par contre, pour enclencher le processus de médiation ou pour prendre contact avec la population, c'est vrai qu'on est déjà une équipe de 4. Donc, il y a 3 garçons et moi-même. Après, chacun a une spécificité, donc je pense par exemple à Bocard, qui lui a travaillé au sein d'un collège pendant 6 ans sur la commune de Lormont. Donc c'est vrai que lui a plus facilement contact avec les jeunes, avec les élèves, avec les parents d'élèves. On a eu Stéphane aussi, qui lui était bien intégré sur le milieu sportif de la commune, puisqu'il était entraîneur de foot. Donc, lui avait ce contact-là. Moi-même, j'ai habité pendant 21 ans sur la ville de Lormont. J'ai fait toute ma scolarité sur la ville de Lormont.
Ah, donc globalement, en général, les médiateurs connaissent bien la ville. Hein. C'est une notion qui est importante, ça, oui. pour la médiation, la connaissance du territoire.
Puis même pour entrer en contact avec la population, c'est vraiment...
Oui, il y a une question de confiance.
Oui,
ouais.
complètement.
Ouais. Ouais.
Après, moi, c'est vrai que j'ai une place particulière. C'est vrai que dès qu'il y a des interventions où il y a la présence d'enfants ou la présence d'une femme, surtout au niveau de la soirée, de la nuit, ça rassure énormément. Chacun a vraiment sa spécificité. Selon les interventions, c'est vraiment... ça vient naturellement C'est pas un correspondant qui intervient, on est toujours en équipe, mais chacun, on s'articule, c'est naturel, quoi.
Donc ça, c'est le choix d'une bonne équipe de mixité,
oui.
quoi.
Oui. On a besoin d'être tous les quatre sur chaque intervention. Ça, c'est vraiment, on le sent quand il y en manque un au niveau de l'intervention.
D'accord, Victor, portez-la.
Oui, et c'est vrai que nous, on a deux volets, hein, la veille technique, la veille sociale. La veille technique, je vais la laisser de côté parce qu'on sait les coupures électriques, on est en contact tout de suite avec l'astreinte de la ville, on essaye de résoudre tout de suite, le plus vite possible, cette problématique, hein, parce que ça rentre aussi dans le cadre de la tranquillité publique, dans un quartier où il n'y a pas de lumière la nuit, le sentiment d'insécurité, il va augmenter énormément. Mais la veille sociale, c'est vrai que les médiateurs, que ce soit dans les correspondants de nuit ou les autres médiateurs, la nuit, c'est pas pareil que le jour.
Oui, je voulais en parler de cette particularité.
Voilà. Et souvent, les mêmes quartiers, la même population, le même secteur, vivent différemment. Et souvent, très souvent, pour avoir été dans une formation à niveau national en Corrière à Paris, je voyais que la problématique de tous nos médiateurs, c'est qu'on va aller où les autres ne sont pas réussis. Ça veut dire qu'on va aller dans une régulation sociale ou une tranquillité publique. Il y a eu un échec, on a eu une manque. Un certain moment, et la population, il est récent. Ça veut dire qu'on va arriver, et des fois, il faut créer ces liens sociaux, il faut créer cette tranquillité publique qui n'existe plus, ou qui est faible, et tout ça, il faut que chaque service, il ait sa spécificité, comme disait Géraldine, chaque personne avec ses qualités et ses défauts, il va aider à une certaine intervention, et notre présence, et c'est la base, hein, c'est la base, c'est une présence active, une présence c'est montrer, savoir qu'on est là, savoir qu'on a un téléphone qui est ouvert à la population, que je vais faire. Alors si à la fin on va vous donner, on va laisser sinon dans un lien internet.
On reviendra sur les infos pratiques, hein, et puis sur les sites internet, téléphone, enfin comme ça laisse aux auditeurs le temps de préparer leur papier pour écrire ou de se garer parce qu'il ne faut pas écrire quand on conduit, hein, on est bien d'accord. Donc on donnera toutes ces informations d'ici 20 minutes.
Et on voit aussi que déjà la richesse qu'il y a autour de cette table dans les différents métiers de la médiation, le sous-métier, on peut dire ça comme ça, parmi nous adultes relais. Et ça donne vraiment envie de connaître plus. Alors j'invite les personnes qui nous entendent, qui nous écoutent, si un jour vous rencontrez dans nos différentes villes ces adultes relais qui sont là en train de faire un travail des fourmis, il ne faut pas avoir peur, il faut faire le premier pas, il faut y aller, et vous allez avoir une écoute, vous allez avoir un renseignement, et vous allez avoir petit à petit un attachement, et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile quand il y a ce type de personnes qui sont là pour créer et recréer le lien social, et qui sont une entière bonne volonté, parce qu'il faut pour le métier, et chez nous, il y a 70% tout de suite la réussite, c'est la personnalité, la facilité des paroles, comme disait quelqu'un à côté. Après, c'est à nous à donner les outils nécessaires en formation, un matériel, un accompagnement pour que ces gens ils puissent réussir à faire des très bons travaux. Et je vois que le travail, des très bons travaux, ça fait 8 ans que je suis sur la ville, ça fait 8 ans qu'on travaille en partenariat avec les autres villes, Florac, Sénon et les autres organisations qui vont dans le travail social. Et je pense que c'est très bien tout ça, il faut continuer, il faut qu'on puisse, nous en tant que professionnels et techniciens, aider ces gens-là. Et on a tellement de richesses avec ces gens qui sont tellement débordants de bonne volonté et de générosité, parce qu'être généreux pour être médiateur adulte relais, on donne beaucoup de soi. Et je pense que c'est... J'ai beaucoup d'admiration à écouter ces gens-là, parce que moi, je suis quelqu'un de métier, et je vois que les gens, ils s'accrochent, et puis on est là, hein, pour continuer.
Alors, je vais rebondir sur ce que dit Victor Portella. Quelles sont les qualités nécessaires à un médiateur ? Kébizane.
Alors moi, je pense que la première des qualités, c'est de trouver la bonne proximité. La bonne proximité entre l'usager qui fait la demande de médiation et la bonne proximité entre les services et les institutions. Évidemment, cette proximité, ça ne veut pas dire deux pas en moins ou deux pas en arrière. Enfin, c'est pas ça. C'est de montrer que on est un tiers qui ne prend pas vraiment parti, mais en même temps, il faut que cette personne voit qu'elle peut avoir confiance en nous, qu'on n'est pas là pour lui faire du mal, en fait. Et cette bonne proximité, elle est très bien définie dans le petit catalogue de France Médiation. Alors ici, c'est très difficile de l'étaler comme ça, mais je pense que c'est la chose la plus essentielle.
Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir sur les qualités d'un médiateur et aussi la relation de confiance qui me semble importante pour la médiation ?
Oui, je pense que les qualités, avant tout, bon, c'est une certaine neutralité aussi, il faut être neutre. Et c'est aussi avoir une certaine approche, être ouvert et ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, que ce soit un jeune adolescent, dans mon cas, en bas des quartiers, ou une personne âgée qui est des fois timide et qu'il faut oser aller et casser cette barrière de certaines frontières qu'il peut avoir, et voilà, être libre, pouvoir circuler tranquillement, aller envers toute population, toute personne. Je pense que c'est important, être à l'aise.
D'accord. À l'écoute. Cette qualité, elle ne vaut pas pour la médiation interculturelle, parce que nous, on ne peut pas agir à la place des gens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on attende qu'il y ait une demande, soit des professionnels, soit des usagers.
Badia Hassan, les qualités
Moi, je pense, malgré ce que vous venez de dire, il faut garder une distance, parce que ça dépend quelle situation on est affronté. Donc, il y a des situations où on peut se permettre d'avoir une proximité, comme il dit Tariq. Il y a d'autres, il faut vraiment mettre un cadre. Donc,
Alors, je pense que du coup, ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes structures et vous n'avez pas du tout les mêmes outils de médiation. Donc, je pense que les qualités, du coup, ne sont pas les mêmes. Stéphanie Montriou.
Donc, moi, je reçois pas mal, pardon.
Non, Badia, continuez, et puis on va passer à...
Par exemple, je reçois pas mal, effectivement, majorité femmes. Et entre ces femmes-là, il y a 2-3 personnes, ils sont très sensibles. Donc, je sais qu'il y a une barrière de ou de là, il ne faut pas trop avancer, garder une certaine distance.
D'accord. Mm.
Alors, justement, par rapport à ces qualités, on parlait tout à l'heure de professionnalisation. C'est vrai qu'au moment du recrutement, notamment, on demande aux personnes, on demande aux personnes qui veulent occuper ces postes-là, comme on le disait, un grand sens du relationnel, une ouverture d'esprit, de la tolérance, de la neutralité, être capable, en gros, de prendre la population comme elle vient et de l'accueillir aussi. Mais il y a une nécessaire posture à adopter qui dépend des relations interindividuelles qui sont liées au parcours de chacun. Parfois, on est surpris. C'est un boulot où on se trompe souvent. Mmh. Mais l'important, c'est pas de rester justement sur ces éventuelles erreurs d'appréciation. Donc le médiateur, il est, comme le disait Victor, généreux, il est ouvert d'esprit. Et il est là aussi, non pas pour justifier ou excuser la personne qui décroche, qui se présente pas, ou qui des fois est un peu chronophage, qui prend beaucoup de temps, beaucoup de place. Non, elle est là pour accueillir tout le monde. Et après, à charge aux structures, aux formations et aux professionnels lui-même, d'être encore là, ouvert à la professionnalisation, qui permet cette prise de hauteur, qui permet de développer un certain esprit critique, de détachement, de discernement, pour mieux lire les choses et avoir cette fameuse posture qui est à la fois proche des gens, mais qui n'est pas non plus complètement dans eux. Les médiateurs ne se substituent pas aux administrés. Ils sont là pour rétablir ou faciliter un dialogue. Mais par exemple, Tarek, quand il part sur le terrain, sur un conflit de voisinage, si y a matière à dialoguer entre les deux parties, Tarek ne va pas faire des allers-retours tout le temps. Il va être en mesure de se mettre à la portée de ces personnes-là, mais de leur dire à un moment donné, voilà, de les renvoyer à leur responsabilité et de leur dire « vous pouvez encore vous parler ». Donc c'est ça, c'est accueillir tout le monde, Bon, j'ai envie de dire les bras ouverts avec cette grande ouverture d'esprit qui fait leur force. Et puis après, au quotidien, c'est travailler à une professionnalisation, à une prise de distance. Moi, je tiens à rappeler aussi que ce sont des métiers, comme on le disait, qui sont pas simples. Ce ne sont pas des travailleurs sociaux, ce ne sont pas des forces de police, ce ne sont pas des vigiles. C'est une alternative à tout ça. Ils s'inscrivent dans un maillage territorial. J'ai cru comprendre qu'on reviendra plus tard aux différences entre le travail de nuit, de jour. Mais ce sont
des particularités, oui. Particularités. Voilà, comment on vit les choses de la nuit et le jour. Voilà,
mais c'est un travail, par exemple, sur lequel nous, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait un petit peu des analyses de la pratique. C'est c'est des métiers où, régulièrement, en tout cas nous, dans notre équipe, tous les mois, on travaille avec une psychologue au réajustement, à l'échange, à des choses qui nous ont posé question ou des choses sur lesquelles on était sûr. Voilà, cette capacité du médiateur à se remettre en question, à remettre ses pratiques sur le tas et à pouvoir les faire évoluer en permanence, je crois que c'est la grande force de ces professionnels-là, cette grande force humaine.
Alors, il y en a qui voulaient intervenir. Alors, allez-y, Madame Paris.
Oui, donc je reviens effectivement sur cet accompagnement qui est nécessaire, indispensable aux adultes relais. Voilà, il faut vraiment qu'ils soient accompagnés par leurs employeurs. Donc, en général, ça se passe très bien. Qu'il y ait des formations prises de poste, qu'il y ait des échanges de pratiques. Donc, il y a des groupes de travail qui se font avec les adultes relais. Donc, ça se fait en ce moment sur Bordeaux-Maritime avec un délégué du préfet. Voilà, c'est très important pour les adultes relais pour pas qu'ils se sentent isolés. Parce qu'effectivement, ils font face, comme donc au CLAP, à des situations souvent dramatiques, hein, des personnes qui sont isolées, qui ont vraiment besoin d'aide. Et eux, ensuite, il faut qu'ils puissent faire un retour de ces situations. Et voilà, ils sont pas psychologues. Donc, effectivement, il faut qu'ils soient aidés.
Victor Portela, vous allez intervenir. Je voulais juste dire qu'on était sur les... deux secondes. Ouais, juste sur les qualités. Et donc, ma prochaine question, c'était les difficultés. Donc, vous avez commencé à en parler. Donc, Victor Portela, si vous voulez reparler des qualités, puis après, ensuite, des difficultés, et notamment du travail de nuit, peut-être.
Justement, il y a les deux. Et c'est vrai que nous avons aussi mis en place des réunions de régulation avec une psychologue, hebdomadairement, dans lesquelles l'équipe se retrouve, sans la direction, sans l'employeur. Et c'est une aide énorme, parce que, bon, il peut se dire les choses ouvertement, il y a quelqu'un qui va réguler, complètement à l'extérieur. Une chose que j'ai revenu, c'est que le médiateur, c'est pas toujours facile parce que finalement il doit être là aussi pour faire des rappels à des règles de vie, le bien vivre ensemble dans lesquels on doit accepter que tout le monde puisse avoir sa place. Et souvent la nuit, on se trouve avec des sensibilités dans lesquelles il faut, même si on n'est pas des policiers, si on n'est pas des vigiles, on doit s'arrêter pour préciser à ces gens-là qu'il faut faire attention, qu'il faut pas faire ça, que si c'est attraper, il va avoir des conséquences, que nous, on les propose de trouver une autre solution, que ce soit tout simplement de la petite incivilité de laisser les lieux dans lesquels ils sont en train d'occuper sales, on les demande de laisser propre, de ne pas laisser des trucs. S'ils sont en train de consommer des produits illicites ou même de l'alcool, on va les mettre en avant en disant voilà, il y a un qui prend le volant, lui il est adulte, mais les autres petits, les jeunes, on va faire tout le possible pour dissuader que les plus jeunes, ils pas dans le véhicule, mais on peut pas aller non plus aller les piquer les clés à la personne qui va conduire ou aller l'interdire de monter dans son véhicule. Vous voyez, c'est toujours très difficile, très complexe, très difficile. Et en plus, on est dans un milieu dans lequel, comme on disait, la nuit, la difficulté de la nuit.
C'est quoi la difficulté de la nuit, justement? C'est le rapport change, non? C'est entre
les rapports, déjà les regroupements, un groupement des 8-10 individus, je vais pas dire des jeunes, parce que des fois on est appelé en disant il y a des jeunes en bas de notre immeuble, et je trouve des personnes de 30-35 âgés, 35 ans, et je cherche les jeunes, mais bon, c'est ces gens-là. C'est les jeunes parce qu'ils sont des gens qui sont toujours depuis très longtemps, ils s'habitent dans le quartier, ils sont encore chez leurs parents, ils sont peut-être des fois à la recherche d'un emploi. Pour la population, c'est toujours les jeunes, même s'ils sont 35 ans. Alors, c'est ces groupes des 8 personnes, des 10 personnes qui sont là le soir, la nuit, quand il n'y a personne d'autre, pour certains habitants, ça va devenir quelque chose d'inquiétant, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Si le même groupe, vous le mettez à 14 heures, dans le même immeuble et tout ça, les habitants, ils vont aussi rentrer, sortir plus facilement, ils vont pas être gênés. Le fait de la nuit, déjà, il y a une inquiétude autre. Mmh. Il y a plein de services qui sont fermés. Ça veut dire qu'il y a plein de services, des fois on est affronté avec des personnes qui sont la maladie mentale, qui nous appellent parce qu'ils ont envie de passer à un acte grave, ou envie tout simplement d'écouter quelqu'un, et nous, entre guillemets, on a nos petits clients, on connaît, on sait, on a des gens qui nous nous appellent tous les 10 jours, tous les 15 jours. Et c'est vrai que nous, on a deux solutions. Soit on appelle les pompiers, soit on dit, voilà, il faut faire quelque chose. Et dans la journée, peut-être, on aura des autres possibilités. On aura des autres travailleurs sociaux qui sont là. Vous voyez, les choses, c'est compliqué. Oui. Soit on est là et on essaye de voir comment on peut réagir. Et à chaque appel, on doit essayer de voir quel type de réponse on va donner. On se déplace des fois sans savoir ce qu'on va trouver derrière. On a des voisinages qui vont nous dire, voilà, il y a trop de bruit. Et quand vous arrivez dans un lieu qui c'est un lieu privé, parce que l'immeuble est privé, et que la personne vous ouvre la porte et que vous voyez que le monsieur, il va de sa femme, c'est plus dans le milieu de la médiation, là.
Alors c'est qu'est-ce vraiment... que vous faites là? Parce que l'intérêt, c'est aussi d'expliquer aux auditeurs concrètement, si chacun, vous avez une situation à raconter... de ce que vous avez vécu en médiation et qui peut être difficile, compliqué, et que vous avez réussi à résoudre ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez raconter concrètement un exemple de médiation que vous avez pu faire? Donc là, un monsieur qui...
Je vais continuer par exemple.
Voilà, un monsieur qui tapait sa femme, qu'est-ce que vous faites?
Je viens de recevoir, je vais passer un autre exemple, qui vient de recevoir un coup de fil juste avant de rentrer dans les studios. Deux voisins, qui c'est une complexité énorme au niveau des problèmes de voisinage. Il y a d'un côté, il y a un problème d'une solitude, peut-être des soins pour cette personne, de l'autre part sont une famille, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, nous, on peut écouter, on peut essayer de les mettre ensemble pour qu'ils se parlent, mais après, il faut faire intervenir. Nous appelons la maison de justice ou de droit, dans laquelle il y a des conciliateurs, que ce n'est pas la même chose que la médiation. On va essayer de voir, pour le côté médical, si la personne qui a suivi ses soins ou pas, et on met en relation avec la personne, le référent de santé de CCAS. Vous voyez, on donne tout de suite des pistes, et on met en contact dans la journée, pour que ces gens aussi, ils viennent voir ce qui se passe avec ces gens-là. Nous, on est très limités.
Là, mais déjà, donner le relais, être médiateur, c'est aussi savoir orienter et passer le relais. Je pense que c'est important.
C'est la base, d'où le terme adulte relais.
Voilà, c'est voilà. Ça. C'est le premier accueil, la première personne qu'on voit sur le terrain et qui est capable d'orienter et de guider les personnes.
Voilà, le plus difficile, c'est quand je disais tout à l'heure, quand on n'a pas de parti. Il y a quelqu'un qui nous appelle en disant il y a une occupation d'immeuble. Ça, c'est typique ici à Navarre, pour des jeunes ou moins jeunes qui sont en train de s'alcooliser, en train de fumer, tout ce que vous voulez. On arrive et puis finalement, qu'est-ce qu'on va s'en rencontrer? Qu'on est tout seul face à ces groupes. Ça veut dire que l'habitant, il ne veut pas descendre, il ne veut pas dire qui c'est et qu'on respecte, hein, que c'est tout à fait. On essaye de faire notre possible. Mais là, ce n'est plus la médiation. Médiation, pour moi, il y a deux parties. On essaye de... C'est une régulation des situations dans lesquelles c'est très conflictuel, très, très difficile, parce que nous, on n'appelle jamais la police. Nous, on n'appelons pas la police dans ces cas-là. C'est l'habitant qui doit l'appeler. C'est l'habitant qui doit assumer. Bien sûr que si je vois qu'une personne qui est en train de se faire tabasser devant moi, et que j'ai 4 personnes et que je ne pourrais pas aller prêter secours tout seul, je ferai d'abord le 17 et après j'irai tout de suite essayer de porter main forte à cette personne. Mais en aucun cas, nous, nos personnes en danger, et nos assistants à personnes en danger, on est dans l'obligation, comme tout citoyen, d'appeler les forces de police. Mais nous, on n'appelle pas la police, c'est la personne qui doit assumer. Bien sûr, on a un accident de véhicule, on appelle les pompiers, ça déclenche tout un système. Il faut rappeler que nos médiateurs ici, ils sont tous les vrais bébés de secourisme, il y a un défibrillateur dans le véhicule, on a tout le nécessaire pour se rassurer les lieux de l'accident. Vous voyez, il y a une multitude des tâches de ces médiateurs, dans lesquelles surtout le principal, c'est pour qu'on puisse donner une aide à la population.
Merci Victor. Alors il nous reste pas beaucoup de temps, je voulais quand même passer la parole à Kéziban sur peut-être une action en particulier, si vous avez un exemple à préciser. Et puis je voulais finir sur les limites de la médiation, les limites de nos postes, mais on a déjà un petit peu évoqué. Donc Kéziban.
Sur les difficultés de la communauté turque, je rencontre beaucoup de difficultés concernant les nouvelles technologies. Malheureusement, heureusement, la société évolue, le monde change, on a tous des ordinateurs, Internet et tout ça, et malheureusement, cette population-là, ont eux aussi accès à Internet, mais ne savent pas l'utiliser, ce qui fait que tout ce qui est inscription au Pôle emploi sur Internet ou radiation, enfin, je sais pas, il faut téléphoner. Après, il y a une boîte vocale. Donc tout ça, c'est très difficile, autant pour eux que pour nous.
Un travail sur la fracture numérique.
Un travail sur
Et les difficultés que vous, vous rencontrez en tant que médiatrice, c'est-à-dire dans, dans vos missions, est-ce qu'il y a un moment où...
Mais justement, c'est qu'on n'arrive pas à contacter ces institutions-là. Ah, le Pôle emploi, c'est très difficile de les joindre. La CPM, pareil. La CAF, il faut y aller. Et quand il faut y aller, évidemment, comme tout le monde, on attend. Et on n'a souvent pas le temps. Et on a beaucoup de demandes concernant la santé. Malheureusement, on ne peut pas pallier à ces demandes-là. C'est-à-dire que beaucoup de dames, enfin de dames ayant des enfants, veulent qu'on les accompagne chez le médecin, chez voilà. Et on ne peut pas, parce que justement, on attend beaucoup dans les salles d'attente. Concernant les outils de médiation, je voulais revenir sur un cas bien précis. On a des écoles qui nous souvent maintenant qui nous appellent pour des cas de mutisme, c'est-à-dire que des primo-arrivants viennent d'arriver les écoles. C'est-à-dire que des enfants qui n'osent pas parler, qui ne veulent pas parler. Évidemment, ils parlent beaucoup au sein de leur famille, mais à l'école, pas un mot, ni à la maîtresse, ni à leurs camarades, à personne. On travaille petit à petit avec le CMPEA, avec la psychologue scolaire, mais malheureusement, ça ne fait pas effet. Donc, j'ai mis en place, ou peut-être que ça s'est fait comme ça, en place ce matin, enfin, il y avait une école qui devait aller visiter la médiathèque d'une ville, et donc j'ai demandé à accompagner pas cet enfant-là précisément, mais c'était pour elle en fait, en réalité. Donc j'ai accompagné les enfants, et après l'accompagnement, on a lu un livre. Le livre était lu en français, et moi je l'ai traduit en turc. Et là, les yeux de la petite en question s'étaient émerveillés. Bon, évidemment, elle n'a pas dit un mot, mais on a vu qu'elle était présente avec nous. Donc la lecture, l'interprétariat, l'écriture, ce sont peut-être les nouveaux modes de... ou les nouveaux outils de la médiation.
Merci pour ce partage d'expérience. Tariq ?
Oui, si je peux revenir sur les limites de la médiation, dans mon cas précis, quand on a un exemple, un conflit de voisinage, il y a toute une méthodologie à respecter. Mais avant tout, voilà, si la personne n'accepte pas de discuter ou de s'entretenir autour d'une table avec l'autre personne, on a vite les limites, on va s'arrêter là, quoi. Nous, on est neutre, on essaie de trouver une solution. Voilà. Ou, quand on va intervenir sur les différents quartiers, ou si la police nationale venait intervenir, à ce moment-là, on se retire aussitôt.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient des limites dans ce métier de médiation de manière générale, ou alors dans vos missions à vous, dans vos expériences ?
Bah, je vais suivre Tariq. Moi, je pense que les limites, c'est les usagers qui se les mettent eux-mêmes en refusant la médiation, tout simplement. Hein.
On ne peut pas imposer de la médiation.
Non, s'il n'y a pas un minimum de volonté de la part des usagers de régler le conflit, s'il y a conflit, on ne peut pas faire à leur place. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire à la place des gens.
D'accord. Marie-Paul Paris, vous voulez intervenir ?
Non, ce n'est pas par rapport aux limites, c'est par rapport à la reconnaissance du métier et le fait, effectivement, qu'il faut qu'il soit connu des partenaires. Donc, on a créé récemment un annuaire des adultes relais de la Gironde qui va diffuser largement dans les mairies, de la mairie de Bordeaux, de la CUB, tout, et également au MDSI, au CAF, au Pôle emploi, etc., pour que, justement, ils puissent être référents et connus de tous les services, voilà.
Oui, oui, qui a un lien entre les médiateurs et puis toutes ces institutions.
Mais c'est vrai que le problème que Kéziman relevait par rapport à la fracture numérique, c'est quelque chose que tous les adultes relais relèvent. Hein. Nous, on a un adulte relais qui s'occupe de l'atelier graphite sur Bordeaux-Maritime et qui aide justement les demandeurs d'emploi à refaire leur CV, etc. et à se rapprocher de Pôle emploi. On a aussi un adulte relais qui carrément va avec les adultes relais au Pôle emploi pour servir de lien.
Merci Marie-Paul Paris. Cette émission se termine. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose avant de passer aux informations pratiques, donc les numéros de téléphone, les sites internet? Tariq, autre chose à rajouter sur les limites? Victor Portela, je crois que vous vouliez dire quand même quelque chose, mot.
Justement pour dire que c'est pas nous qui menons la solution, nous aidons pour que eux ils trouvent leur solution. Et c'est pas facile. Et même si nous on pense avoir une solution au problème, on les laisse vraiment comme un dernier recours, de donner une piste pour qu'ils trouvent. Pour que s'ils sont pas eux qui ont créé cette solution, ils vont pas être en possession de la porter. Et forcément, une fois qu'on sera parti, ça reviendra le problème. Et il y a aussi les conciliateurs dans la maison de justice et de droit. Lormont, et il y a des cèdes juridiques, il y a toute une panoplie des personnes qui viennent derrière nous pour continuer cette petite médiation qu'on fait souvent, nous, les correspondants de nuit, à chaud, et c'est pas facile, et qu'on essaye, simplement, c'est un petit démarrage.
Merci Victor Portela. Marie-Paul Paris.
Oui, donc effectivement, il y a les adultes relais, donc qui sont des postes financés par l'État, mais il y a aussi beaucoup de médiateurs dans plein de domaines, qui au lycée, je crois qu'ils emploient des médiateurs, médiateurs de l'eau, médiateurs dans les banques.
Familial.
Voilà. Médiateurs familial, voilà, c'est tout un réseau de médiateurs.
Oui, alors aujourd'hui, on ne pouvait pas inviter tout le monde, donc on était plus sur les médiateurs adultes relais et de la rue droite, hein, comme j'ai précisé au départ. Hein. C'était vraiment la présentation de ces médiateurs qui sont vraiment dans les quartiers aussi. Et puis effectivement, après, il y a toutes sortes de médiations. Il y a la médiation juridique, familiale, voilà, il y en a plein de toutes sortes qu'on invitera peut-être dans une future émission. Donc on va passer aux informations pratiques. Kéziban, alors où est-ce qu'on peut vous joindre et où aller directement vous voir?
Donc le CLAP, comité de liaison des acteurs de la promotion, se trouve au 10 rue du Colonel Fabien, 33 310 à Lormont.
Badia Hassan, est-ce qu'on peut directement aller au jardin ou est-ce qu'il faut passer un petit coup de fil avant?
Il vaut mieux parce que je suis sur deux permanences, mercredi après-midi, vendredi après-midi.
Alors, mercredi après-midi,
je peux être disponible à n'importe quel moment si quelqu'un il a envie de passer du temps ou de couvrir le jardin ou connaître les informations, comment ça fonctionne.
Donc on peut rappeler mercredi après-midi, samedi après-midi à ce nom?
Mercredi après-midi. Non, toute la semaine.
Du
lundi au vendredi, on peut m'appeler au 06 72 23 35 73.
Et rappelez, où est le jardin
Alors, le jardin, les Mille et une feuilles, ça se trouve derrière la maison des associations. Par la voie de tram, il faut descendre à l'arrêt Marègue. Voilà.
Autrement, on passe un coup de fil. Il y a un site internet aussi, Place au Jardin, il me
semble.
Place
au Jardin.
Tout attaché.
Tout attaché, en pluriel, s.org.
Voilà, d'accord. Voilà. Et à Foirac, alors, il est à côté du centre social du Haut Foirac.
Le projet doit avoir un jardin partagé à Florac. Ça se trouve au centre social de Florac.
D'accord.
L'arrêt tram terminus Dravemont.
D'accord, merci. Alors, on se dépêche parce que vraiment, là, on a pris un peu plus de temps. Donc, Tariq.
Oui, moi, donc, c'est pour tous les Bassenais. On peut passer me voir à la mairie de Bassin, c'est me demander comme passer à la résidence Prévert rue Yves-Montand, où je fais mes permanences le mardi après-midi de 15h à 17h.
Où on peut contacter la mairie de Bassin, j'imagine.
Ou en passant bien sûr par la mairie, là sera mon téléphone direct.
Et Victor Portela de Médianimation, ou alors donc on vous joint, on peut vous voir, vous avez
un
local?
On va vous laisser un numéro de téléphone, le plus simple. Allez. C'est 05 56 71 01 81. Et même si c'est pas pendant les heures d'ouverture, il y a un répondeur. Et puis je voudrais remercier à Sandrine et puis à O2 Radio de nous donner cette tribune, que c'est vraiment intéressant, parce que déjà nous on a fait une connaissance entre nous beaucoup plus approfondie, et aussi que la population ils savent que nous existons. Merci O2 Radio.
Merci. Alors c'est moi qui vais vous remercier, hein, donc.
Merci
Donc moi-même, je suis médiatrice sociale adulte relais, donc je profite pour redire aux auditeurs et dire aux médiateurs qui sont ici que cette émission est conçue pour recevoir, pour qu'on parle des problématiques des habitants et qu'on essaie de trouver une solution. Donc pour moi, vous êtes des personnes ressources, et donc ne pas hésiter à venir exposer des problématiques que vous rencontrez avec les habitants, enfin que les habitants rencontrent, mais que vous pouvez faire remonter sur cette émission. Donc cette émission touche à sa fin. Je vous remercie donc tous d'avoir participé. Merci à Marie-Paul Paris, donc de la direction départementale de la cohésion sociale. Merci à tous les médiateurs de la rive droite du quartier. On se retrouve le mois prochain pour une autre question d'actualité sur la médiation. Merci.
Merci.